Mercredi 3 septembre 2014, bienvenue au retour de CIBL Reçoit, c'est notre rentrée à nous aussi. Ici Émilie Lamine pour cette première émission de l'édition 2014. Aujourd'hui, comme à tous les premiers mercredis des prochains mois, on vous présente La Solidarité en Action, une émission réalisée par CIBL en collaboration avec Alternative. Et je vous le disais, c'est la première émission de la saison, alors un petit rappel qui ne fait pas de mal. Alternative, c'est donc une organisation de solidarité dont le mandat est de promouvoir, ici comme ailleurs, la justice sociale. Et l'objectif de cette série d'émissions, c'est donc de vous présenter toutes leurs activités en lien avec l'actualité nationale et internationale. Une émission qui est rendue possible grâce à la contribution du ministère des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur du Québec. Et aujourd'hui, dans Solidarité en Action, on vous propose un retour sur le succès et les enjeux du Forum social des peuples qui a eu lieu du 21 au 24 août dernier. On va parler de sable bitumineux, d'environnement, de solidarité syndicale et de démocratie, entre autres. Ce forum, c'était une première au Canada et puis il a eu lieu à Ottawa, je vous le disais, et a permis à différents progressistes du Québec, du Canada et des Premières Nations de partager leurs idées. Une rencontre qui a aussi démontré une nouvelle volonté des mouvements sociaux et des peuples autochtones de travailler ensemble pour organiser leur riposte à des politiques d'austérité annoncées par le gouvernement fédéral. On s'entretiendra donc tout au long de l'émission avec nos nombreux invités et j'accueille justement en studio tous nos invités. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Et puis bienvenue à la première émission de la rentrée 2014 de La Solidarité en Action. Et pour notre première partie d'émission, on retrouve tout de suite Roger Rachi, qui est coordinateur du Forum social des peuples. Monsieur Rachi, bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Julie Marquis, vous êtes coordinatrice de la Commission Québec, donc au sein de ce forum. Bonjour à vous.
Bonjour.
Avec vous deux, on va revenir sur le succès de cette première édition du Forum social des peuples et de ce rassemblement. Et je parle de succès, mais justement, selon vous, d'après vous, quel est le bilan global de cette première édition du Forum social des peuples?
Je vais me lancer en premier. Julie, tu m'appuieras après. Tu diras le contraire, comme tu veux. Alors, écoutez, ça a été un forum très positif du point de vue de la participation. Nous avons eu entre 5 et 6 000 participants, ce qui est quand même énorme. Du point de vue du nombre des ateliers, 500 ateliers. Du point de vue de l'enthousiasme, du point de vue des retombées possibles, à tous ces niveaux-là, on peut dire que ça a été un succès. Puis même un succès éclatant.
Donc un succès par rapport au nombre d'intervenants et puis surtout dans les enjeux que vous vouliez aborder. Vous parliez de 500 ateliers, ce qui est quand même énorme. Il a fallu parler de nombreuses choses et au niveau organisation, justement, est-ce que ça s'est bien passé aussi?
Oui, et puis j'aimerais rajouter que je pense qu'un des grands succès, c'est la diversité des gens qui étaient en présence là, lors du forum. Donc beaucoup de personnes du Québec, mais aussi du reste du Canada, des peuples autochtones et des personnes aussi là, migrants là, qui ont fait partie du forum. Belle représentativité du Québec. On parle autour là, de 200 ateliers là, qui se déroulaient aussi en français.
Et du côté, on parle du français, du côté de la participation québécoise des Québécois qui étaient là. Est-ce que le bilan était aussi positif? Est-ce qu'ils étaient aussi nombreux?
Oui, parce que si vous calculez qu'entre 35 et 40% des participants et participantes venaient du Québec, c'est quand même un nombre important de gens qui sont déplacés sur Ottawa, qui sont sentis très à l'aise. Hein, parce qu'on sait que dans les grands ensembles, les grandes occasions pan-canadiennes, parfois les Québécois et les francophones se sentent soit à l'étroit, soit pas vraiment à l'aise. Cette fois-ci, au contraire, avec le nombre d'ateliers en français, la traduction simultanée dans le quart des événements, la tradition simultanée pour les assemblées finales de convergence, etc., je pense que ça a permis à tout le monde de participer, quelle que soit leur langue.
Mais je suppose, malgré la langue, je suppose que les défis n'étaient pas les mêmes selon les attentes québécoises, les attentes canadiennes, les attentes autochtones. Comment vous avez géré justement cette entente sur des sujets abordés tous ensemble?
Mais ce qui est intéressant, c'est que le forum en tant que tel est un événement. Par contre, il y a eu un processus pour arriver au forum. Donc, à l'intérieur de ce processus-là, les gens ont dû se rencontrer, ont dû discuter ensemble. Et là, finalement, là, arrivé là, quand même là, à cet événement-là, plusieurs thèmes, les gens proposent des ateliers, donc c'est vraiment du bas vers le haut. Les gens occupent l'espace. Et par la suite, le samedi, les ateliers de convergence. Plusieurs assemblées de convergence avaient déjà été préparées aussi préalablement, où il y avait eu des discussions. Donc, c'était dans la suite de ces discussions-là, pour terminer avec l'Assemblée des mouvements sociaux, où là, vraiment, les gens là, se sont rassemblés et se sont entendus là, sur différents principes et aussi l'appel à l'action du fait qu'on a ressenti ça, tout au long là, de cet événement-là, les gens sont prêts à l'action et tant côté francophone, Québec, que les peuples autochtones, le reste du Canada, les gens étaient vraiment prêts à dire on veut travailler ensemble, même si on a des visions différentes, on a quand même des choses qui nous rejoignent, on va miser là-dessus sur qu'est-ce qui nous rejoint pour pouvoir finalement là, se mobiliser et continuer là, le travail.
Mais alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément entendu parler de ce forum, est-ce qu'on peut expliquer comment ça s'illustre concrètement, même si on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants? Vous avez parlé d'ateliers, mais c'est des ateliers de discussion, des ateliers débat. Comment ça
un
se
sépare? Hein. Ça peut être des panels, ça peut être des conférences et ça peut être des ateliers de discussion. En fait, les 500 ateliers dont nous parlons, ce sont des activités qui sont auto-organisées. Donc, c'est le groupe ou les groupes qui les présentent qui ont la responsabilité d'organiser l'événement comme ils veulent. Il y a eu aussi des ateliers qui étaient plus culturels, des présentations de films, de théâtre, musique. Donc, une énorme variété dans la forme.
Oui.
Et une énorme variété dans le contenu.
Parce qu'il faut rappeler que c'est pas quelque chose de partisan, au contraire. Chacun
voilà.
a ses idées,
voilà.
Mais se réunissait pour voilà. Débattre.
Le leitmotiv, si vous voulez, le principe sur lequel le forum s'est entendu depuis le départ du processus, il y a presque 3 ans, c'était l'importance de se battre contre les mesures d'austérité hein, et le gouvernement de droite à Ottawa. Ça est resté, je pense, le point d'unité principal. Alors, même si les gens ont des expériences différentes, viennent de parties différentes du pays, cette volonté-là de se mettre ensemble pour combattre les mesures d'austérité et atteindre un monde meilleur est ce qui unit. C'est ce qui a uni le forum du début à la fin.
Donc, c'est des. Si on résume en très, très gros, je sais qu'il y a eu beaucoup plus de débats que ça, mais on a parlé des femmes, on a parlé des autochtones, on a parlé de diversité sexuelle. C'est des choses qui touchent tout le monde. Comment vous allez faire, grâce à cette première édition du forum, pour que ça ne reste pas quelque chose de symbolique? Et que, parce que vous l'avez dit, hein, l'idée, c'est quand même de passer à l'action. Comment un forum comme ça, avec tous ces ateliers, aussi divers qu'ils soient, va passer du symbolique à l'actif?
Peut-être aussi mentionner que dans le processus, c'est très particulier au Forum social des peuples, il y a aussi des caucus. Donc, on parlait de commission expansion, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt découpé sur la question du territoire. Et là, les gens se rassemblaient, se mobilisaient pour se rencontrer au Forum. Par contre, les caucus, c'est beaucoup plus sous forme d'enjeux ou thématiques ou quelque chose qui unit les gens. Donc, on avait le caucus des personnes de couleur, par exemple. Donc, ils travaillent déjà depuis un an ensemble et proviennent de différentes régions. On a le caucus des peuples autochtones. On a aussi le caucus des femmes. Donc, déjà, à l'intérieur de la structure, il y a des caucus ou des commissions d'expansion qui peuvent continuer là, à travailler.
Ça va se suivre.
Oui, exactement. La structure est là. Tout est là. Et là, on avait l'opportunité pour l'événement d'avoir une coordination. Maintenant, comment on va poursuivre, là, c'est toute la question de la stratégie et on va devoir se pencher là, très prochainement là-dessus pour pouvoir continuer le travail et vraiment là, aller là, dans l'action, ce que les gens là,
donc,
ont
après,
demandé.
C'est ça.
C'est exactement, ont demandé là, à l'Assemblée des mouvements sociaux.
Donc là, on parle de succès, on parle de suite qui va arriver. Est-ce que vous attendez un deuxième forum l'année prochaine?
L'année prochaine, non, c'est un peu tôt. Disons quand même, ouais. Ça prend presque 1 an, 2 ans pour organiser un forum. Mais c'est sur la table. Hein. C'est une discussion à savoir s'il y aura un prochain forum et à quel moment. bien sûr, il faut laisser quand même le temps à toutes les organisations participantes de faire un peu leur bilan.
Oui.
Hein, de faire leur bilan, de voir quel a été l'impact et jusqu'à quel point elles veulent s'investir dans un nouveau forum. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il pourrait y avoir des retombées immédiates, je vous dirais, au moins à 3-4 niveaux. Par exemple, la lutte contre les pipelines. Nous savons que
oui,
les pipelines sont
en
l'interlès.
On en parlera plus en détail
alors,
dans l'émission.
Alors, un des points forts du forum, ça a été de dire que autour de la lutte contre l'expansion des pipelines, il y aurait des actions communes, autochtones, environnementalistes, groupes progressistes. Donc, il y a ça, puis ça s'en vient rapidement durant les prochaines semaines. Les syndicats du secteur public. On sait, par exemple, qu'il y a une bataille énorme qui s'en vient dans les postes, n'est-ce pas, avec la coupure de la livraison à domicile.
Donc, c'est donc que là, sur du long terme qu'on peut voir...
Voilà. Donc, il y a des choses à court terme et il y aura aussi des discussions sur long terme, comment faire un nouveau forum et
c'est
à
ça.
Quel moment.
S'il devait y en avoir un, en tout cas, voilà. Ça se réfléchit, ça n'arrive pas comme ça. Et s'il y en a un prochain, qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Parce que je suppose que vous allez garder des intervenants qui sont déjà venus. Est-ce que vous voulez en inviter d'autres? Est-ce que d'autres questions seront abordées?
Comme Roger disait, on ne sait pas si prochainement il y aura forum. Par contre, une chose est certaine, on va continuer à faire vivre les structures existantes. Et si on pourrait aller vers... Il y a toute cette question de consolider les liens. Donc, évidemment, il y a des liens qui sont là depuis un an, il faut les consolider et aussi aller chercher d'autres personnes, le maximum de personnes, de groupes, de citoyens, de citoyennes à participer finalement à différentes structures, différentes luttes.
Tout le monde peut participer.
C'est un processus qui est ouvert, rassembleur et bien entendu, dans la suite des choses, va continuer à progresser de cette même façon.
Ben, on espère bien en tout cas, puis on va continuer à en parler plus en détail sur certains secteurs qui ont été abordés. On parlait des pipelines par exemple. On va continuer sur cette lancée. Merci à vous deux. Donc, Roger Rachi, je rappelle que vous êtes coordinateur du Forum social des peuples. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et Julie Marquis également, coordinatrice de la Commission Québec au sein du Forum. Merci.
Merci beaucoup.
De retour pour parler de solidarité en action avec autour de la table Nathalie Guay, bonjour.
Bonjour.
Patrick Rondeau et Véronique Brouillette, donc bonjour à vous.
Bonjour.
Petite présentation. Premièrement, Nathalie Guay, vous êtes donc adjointe au comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux, donc la CSN, et responsable des dossiers internationaux. Patrick Rondeau, pour votre part, vous êtes conseiller régional à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Mmh. Et enfin, Véronique Brouillette, conseillère à l'action professionnelle à la Centrale des syndicats du Québec. Donc là, je viens d'énoncer vos statuts à vous trois. On se doute qu'on va parler des enjeux syndicats, évidemment, et des grandes coalitions qui s'impliquent du côté justement des syndicats et dans les différents mouvements populaires lancés depuis quelques moments. On s'intéresse précisément à l'éducation et au secteur public. Premièrement, dans le cadre du Forum social des peuples, quels mouvements syndicaux ont été représentés du côté québécois?
Bien, je peux dire qu'au Québec, je pense que l'essentiel des forces syndicales étaient présentes et actives depuis le début, en fait, du processus. C'est sûr que nos trois organisations ont été assez fortement impliquées, notamment actives au niveau du caucus syndical. C'est même, je pense, une initiative du Québec, là, de créer ce caucus-là avec les syndicats canadiens. La FIC aussi était présente. Il y avait aussi un syndicat de fonctionnaires aussi, je pense.
Canadien anglais, du Canada anglais aussi.
Oui, du Canada anglais, en fait, les syndicats, là, membres du CTC, entre autres, là, donc Patrick pourra certainement en parler. C'est un peu la spécificité du Québec, hein, le pluralisme syndical est quelque chose qui n'existe pas vraiment à l'extérieur du Québec. Donc,
on parle de quoi, justement, qu'est-ce qui est plus important au Québec qu'ailleurs, dont on ne parle pas du côté des syndicats?
Bien, si je peux te permettre, je pense pas que c'est de choses dont on parle, mais je pense que c'est plus qu'on a on a une culture de travailler ensemble peut-être un peu plus forte au Québec. On est déjà liés, les centrales syndicales, dans les coalitions, etc., ce qui est un peu moins présent dans le reste du Canada. Alors, c'est sûr que les syndicats du Canada, d'anglais, regardaient beaucoup les syndicats du Québec.
Sur des questions des langues, la langue ou...
Non, pas nécessairement sur des coalitions, sur des sujets divers là, qui touchent le syndicalisme, le travail en général.
C'est quoi les enjeux principaux, justement, qui touchent le Québec?
Bien, écoutez, les luttes sociales ne sont pas regardées de la même façon au Québec qu'au Canada. Donc, les syndicats au Canada ont pris plus de place dans les luttes sociales qu'on peut le voir ailleurs. L'action même liée à l'action politique dans les luttes sociales est différente au Québec qu'au Canada. Donc, on a une politique plus partisane au Canada. Oui. Il n'y a pas cette culture-là aussi militantiste. Il n'y a pas autant de groupes sociaux aussi, et une société civile aussi forte à l'extérieur du Québec. Et il n'y a pas cette connaissance-là ou cette volonté-là de travailler en réseau, dont la formule des forums sociaux. Donc, et d'ailleurs, vous savez, au Québec, il y a une tradition depuis de nombreuses années que les groupes du Québec participent au Forum social mondial, ce qui n'est pas le cas à l'extérieur du Québec. Quand on parle de délégations qui viennent du Canada, ils sont essentiellement du Québec. Donc, il y avait ça à bâtir, il y avait cette connaissance-là à y avoir les uns avec les autres. Et même nous, c'est à la FTQ, on est en certaine partie un organe du Congrès du travail du Canada, donc la centrale canadienne du travail. On n'a pas ces luttes-là. Donc, même nous, on a appris à nous connaître entre nous et à développer des stratégies politiques pour la suite des choses.
Et donc, c'est à ça aussi que ce forum a servi, c'est de comprendre quels étaient les enjeux en fonction des endroits pour chaque personne. Parce que vous dites que vous avez appris comment ça fonctionnait, etc. Ça a commencé comment? Vous êtes arrivé au forum, puis il y a eu une discussion directe sur les enjeux?
Non, en fait, toutes les discussions entre les groupes ont commencé il y a 2-3 ans quand on a commencé à organiser le forum. Donc, l'objectif fondamental de la plupart des organisations, et là, je pense que je pourrais dire ça pour les organisations syndicales, c'était d'être en mesure de combattre le conservatisme au Canada, d'être en mesure de pouvoir faire une riposte conséquente quand le gouvernement Harper vote des projets de loi qui veulent anéantir le pouvoir syndical, par exemple, quand le gouvernement Harper propose une réforme de l'assurance-emploi qui est profondément injuste, etc. Donc, l'idée, c'était de créer un processus qui allait nous permettre de travailler ensemble par la suite. Donc, ça fait très longtemps qu'on est dans ces discussions-là. Et au forum, bien, on a vu toutes sortes d'ateliers, dans le fond, où il y avait différents syndicats qui collaboraient ensemble, parfois aussi avec des groupes, d'autres types de groupes, pour traiter d'un certain nombre de sujets qui nous sont chers. On parle de la réforme de l'assurance-emploi, des services publics, ce genre de choses-là, entre autres.
Et comment vous arriviez à vous réunir là-dessus, même si on le rappelle, c'est le forum, il y a eu des réunions préparatoires tout au long des années précédentes. Mais la réunion, là, quand vous vous êtes réunis tous ensemble au forum, comment ça s'illustrait entre vous dans vos discussions d'avoir un défi qui était le même? Là, on parle du conservatisme du gouvernement Harper. Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'on parle? C'était la seule grosse critique du forum?
Mais en fait, il y avait plusieurs niveaux sur les discussions qu'on a eues. En fait, il faut comprendre que le Forum social d'époque, quand on parlait de 500 ateliers tantôt, la particularité, c'est que c'est organisé par les participants. Donc, on a incité beaucoup les groupes syndicaux à être plus acteurs que spectateurs. Et de par les faits, de par les enjeux qu'on défend déjà sur la sauvegarde des services publics, les régimes de retraite, l'assurance-emploi et même les luttes politiques et même carrément les luttes, en fait, contre les plans d'austérité. Mais ça allait de ça que plus les gens discutaient entre eux, plus ils avaient envie d'organiser des ateliers, des conférences, des assemblées. Et ce processus-là s'est fait tout au long. Et donc, en fait, le forum social a été une possibilité pour les gens de se réunir physiquement ensemble et pouvoir poursuivre les discussions. Mais le travail s'est commencé bien avant. Et le travail, en fait, pour nous, ne fait que commencer. Quand le forum s'est terminé, c'est là que ça s'est commencé comme travail. Donc, c'est un processus constant sur différents enjeux. Mais plus on discute avec nos collègues syndicaux et même en dehors du milieu syndical, ben, on comprend mieux les enjeux de l'un et chacun et ça nous permet de développer des stratégies. En fait, c'est simplement qu'on a ouvert des canaux de communication qui étaient dormants.
Et donc, bilan là, de toutes ces convergences que vous avez juste à la fin de ce forum, quel est le bilan pareil? Est-ce qu'il est positif? Est-ce que vous avez réussi à vous entendre entre les différents organismes?
Bien, Moi, je voudrais juste préciser qu'il y a deux semaines, le forum commençait. Donc, c'est évident que c'est tôt pour parler de bilan. Alors, il y a des discussions qui vont avoir lieu, qui ont déjà commencé à y avoir lieu sur les suites qu'on veut donner. Mais moi, je vais reprendre un peu la discussion précédente. Je veux dire, on organisait un forum pour se rencontrer. Un forum, c'est un événement où participent des militants. C'est pas un événement médiatisé. On en a eu la preuve encore une fois. C'est pas un événement où participent des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Maintenant, quelle est la prochaine étape? On disait tout à l'heure que les gens ont appuyé un besoin d'action, de faire des campagnes, de faire des actions coordonnées. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut regarder plutôt que de parler de faire un autre événement qui ne ferait que rassembler des militants. Oui. Là, on a un appel à l'action qui est exigeant en termes de long terme, de bâtir des alternatives, mais aussi de court terme, de battre les conservateurs. Je veux dire, c'est une des raisons, entre autres, pour laquelle ce forum-là a été un succès. Harper nous a, en quelque sorte, forcés à nous réunir aussi. Il nous a mis devant une urgence, devant, en fait, aussi le propre diagnostic de notre faiblesse à nous réunir, à nous battre ensemble pour nos droits. Alors, moi, je pense que c'est un peu ça, dans le fond, la direction où il faut qu'on se parle. Maintenant, il faut avoir des discussions syndicales, il faut avoir des discussions avec nos camarades autochtones. Bon, un peu ce que tous les gens disaient tout à l'heure.
Donc ça, c'est ça, la réussite, vous le disiez, c'est d'avoir réussi à vous réunir face à toutes ces questions-là. Des nouveaux défis qui ont ressorti de toutes ces discussions du forum ou pas?
Ben, c'est pas si tant qu'il y a des nouveaux défis. Tu veux y aller, Véro?
Non.
C'est pas si tant qu'il y a des nouveaux défis qui sont sortis de là, mais le défi en soi va être justement cette convergence-là. Alors, quand on parle de convergence, on peut facilement parler de divergence aussi, et c'est extrêmement difficile de pouvoir allier tous les enjeux, les priorités de tous et chacun. Donc, notre défi, c'est de marcher d'un pas commun, d'un front commun, et d'avancer de cette façon-là. Et on a la volonté, on l'a senti lors du Forum social des peuples, et il y avait ce besoin-là, on l'a senti sur place. Ce besoin-là de discuter, de débattre, et de vouloir bâtir quelque chose qui avance. Et comme Nathalie le disait, c'est pas d'institutionnaliser en fait le forum et d'en faire une coalition quelque chose. C'est un événement en soi.
C'est permettre
aux gens
de se
réunir. Et c'est à nous de bâtir par la suite effectivement les mouvements de convergence.
Je voulais ajouter aussi un élément important du Forum social des peuples, et dans ce sens-là, c'est une réussite, c'est vraiment de montrer l'interdépendance des luttes. Et justement, la convergence, et là, on parle, c'était quand même un défi de réunir tout le mouvement syndical l'ensemble du Canada en même lieu. Déjà, en soi, ça, c'était une réussite. De garder ces liens-là ensuite et puis de passer à l'action, ça, on va pouvoir en discuter plus tard. Mais aussi de faire des liens entre le mouvement syndical et les mouvements populaires et les autres groupes, les Autochtones, ça, c'était vraiment quelque chose d'unique et unique dans l'histoire du Canada.
Oui, parce que c'est ça, il faut le rappeler, ça s'adressait aux Canadiens, aux Québécois et aux Premières Nations également. L'entente ne devait pas non plus être facile dès le début, même si c'est de ce côté-là, pas du côté du gouvernement. Là, encore une fois, je ne pense pas que les défis s'entendent entre eux non plus. Avec la question des Autochtones, est-ce qu'elle a été bien entendue également dans ce forum? Est-ce que c'était quelque chose qui était principal dans le Forum social des peuples?
Ah, oui, moi, je pense que ça l'a traversé complètement le forum. Je pense que, en fait, c'est vraiment la présence autochtone qui a fait en sorte que cet événement-là est aussi historique là, qu'il l'a été. C'est pas seulement une communauté, c'est différentes nations, différents peuples autochtones aussi qui étaient là, qui étaient présents et qui ont permis aussi des rencontres entre eux. Nous, on a eu une rencontre très riche au niveau de quelques représentants syndicaux avec des représentants autochtones. Comme un premier pas, en fait, ça aussi, cette rencontre-là, c'était une première.
C'est nouveau.
Oui.
Très nouveau.
On a plusieurs relations ici au Québec. Je pense qu'on a peut-être des pratiques qui sont différentes. On a un historique de coalition qui est de plusieurs décennies déjà avec différents représentants. Mais là, avec le mouvement Idle No More, avec la participation de différents groupes, Defenders of the Land, des gens qui s'organisent un peu plus du côté de la société civile, je pense que ça offre des perspectives vraiment nouvelles. Et quand on parle aussi de lutter contre ce gouvernement-là, nous, il faut aussi intégrer que c'est un gouvernement qui est colonisateur envers les premiers peuples. Et ça a des implications dans le type de relations aussi.
Actuelles.
Et de la façon de bâtir les alternatives. Donc ça, c'est un volet qui est complètement fondamental et qui a assuré, quant à moi, si ça n'avait pas été là, ça n'aurait pas été un succès.
Ça n'aurait pas
fonctionné. Et ça n'aurait pas pu fonctionner si, depuis le départ de l'organisation de cet événement-là, il n'y avait pas eu de caucus autochtone, par exemple. Ça a été fondamental.
Merci beaucoup à vous trois. On va continuer juste après une courte pause. Je vous remercie. Donc, Nathalie Gay, je rappelle que vous êtes adjointe au comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux. Patrick Rondeau, merci à vous également. Vous êtes conseiller régional à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Et Véronique Brouillette, merci à vous également, conseillère à l'action professionnelle à la Centrale des syndicats du Québec. On fait, nous, pour notre part, une courte pause et on retrouve nos prochains invités après pour la deuxième partie de Solidarité en action.
Le cœur doucement se réveille, 6h du matin.
Le dimanche matin,
rappelle-toi.
Est devenu notre passé.
C'est le manège aux souvenirs.
Sommeil et matine, les dimanches de 6h à 9h.
Je n'attends personne, personne d'autre que toi.
Réveille-toi et ouvre-moi.
6, 7, 8, 8, 9 heures, stop.
Ici Mélanie Houde. Tous les samedis de 9h à 10h, je vous invite à écouter Aire de jeu, une émission spécialement conçue pour les tout-petits et leurs parents. De 9h à 9h30, chansons et histoires attendent les enfants. Et de 9h30 à 10h, c'est pour les parents, avec des trucs, conseils et idées de sortie en famille à Montréal. Aire de jeu, votre rendez-vous familial, le samedi de 9h à 10h, sur les ondes de CIBL 101.5, Radio Montréal.
Commencez votre samedi du bon pied ou du bon sabot. Ici Côte Bélanger. Tous les samedis de 6h à 9h, je vous invite à écouter le Sabot de Denver pour entendre le meilleur de la musique country et folk. Sabot de Denver, tous les samedis matins de 6h à 9h sur CIBL 101.5 Montréal.
Électron libre, votre conducteur de musique électronique à CIBL. La variété musicale sans frontières, des titres électroniques fraîchement pressés, des rencontres avec les meilleurs musiciens électroniques du moment. Électron libre, tous les jeudis de 20h à 21h30 sur les ondes de CIBL 101.5, Montréal.
Électron libre, électron libre, électron libre.
Bonjour à tous, ici Antoine Léveillé, animateur de l'émission Dans le détour. Je vous invite à écouter mon émission hebdomadaire les vendredis de 21h à 22h. 60 minutes consacrées majoritairement aux nouveautés indie rock anglophones. Et tel un véritable explorateur infatigable, groupes et artistes passant sous le radar sont les bienvenus à mon émission. Je vous donne rendez-vous vendredi 21h sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
L'Afrique, à la fois éloignée et proche de nous. En compagnie de Jean-Paul Bongo et son équipe, Rythme d'Afrique vous fait faire le tour de ce grand continent aux multiples facettes. Tout y est. Actualité, musique, humour, bonne ambiance africaine. Rythme d'Afrique, tous les samedis 15h, sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
Bonjour, ici Richard Thérien de l'émission Jazzologie. Vous écoutez CIBL 101.5 Montréal.
Il est 1h28, on accueille tout de suite en studio Amélie Nguyen, vous êtes analyste à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, bonjour. Bonjour, et Patrick Bonin, spécialiste des questions climatiques et énergétiques québécoises et canadiennes à Greenpeace, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va parler de démocratie et de climat à travers ce qu'on appelle les assemblées de convergence. Et puis parler justement des plans d'action qui vont être proposés après ça. D'abord, qu'est-ce que c'est que les assemblées de convergence? Comment c'est né au forum?
Mais essentiellement, si on regarde la question du climat, on retrouve l'ensemble des acteurs de différents secteurs de la société civile, que ce soit par exemple les Autochtones, les groupes de femmes, les syndicats, les environnementalistes évidemment, les organismes communautaires plus largement, qui se retrouvent ensemble et réfléchissent à la problématique climatique, tentent d'identifier justement le problème à la base de cette problématique des changements climatiques et d'arriver à se proposer collectivement un plan de match commun, à se coaliser d'une certaine manière, donc à travailler de manière plus efficace, parce qu'actuellement, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe d'un point de vue climatique avec, et vous l'avez entendu parler, avec la science qui est unanime sur il y a urgence d'agir et les gouvernements qui ne suivent pas.
Oui, la Terre qui a utilisé toutes ses ressources pour l'année, ça, c'est des choses comme ça aussi qui sont très alarmantes, puis pas seulement du côté du gouvernement, du côté des médias, on n'a pas l'impression que ça s'inquiète non plus trop. Et puis pour revenir sur la démocratie également, sur les assemblées de convergence, comment ça s'est illustré aussi de votre côté?
Bien, je pense, en fait, pour revenir sur ce que Patrick disait, c'est aussi l'idée, dans le cadre des assemblées de convergence, de vraiment faire durer le forum. Donc, souvent, on voit les forums comme des événements festifs, on sait pas trop à quoi ça sert de l'extérieur. Dans le fond, l'idée, c'était vraiment de créer des solidarités durables au niveau pan-canadien, donc autant au niveau du Québec, des peuples autochtones, du reste du Canada aussi. Ce qui est difficile parce qu'il y a certaines, parfois, barrières linguistiques, oui, barrières culturelles. Donc, l'idée, c'était de faire émerger, de créer une ébullition là, de ces mouvements-là, puis de débuter quelque chose qui va plus loin. Notamment, en tout cas, dans le cadre de l'Assemblée démocratie, c'était vraiment en vue des élections de 2015, mais aussi pour revoir complètement notre système démocratique, nos institutions démocratiques. On sait le rôle qu'ont joué les peuples autochtones dans le forum cette fois-ci, puis c'est des institutions qui sont pas considérées comme légitimes.
C'est ça.
Historiquement par les peuples autochtones. Donc, tout ce travail-là à faire de rebâtir, repenser notre système.
Pour résumer, c'est une espèce de rassemblement des différents organismes sur des thèmes particuliers, sur du long terme, pas seulement, encore une fois, sur un événement qui se passe une fois dans l'année. Encore une fois, la première critique qui est lié à ces assemblées, c'est dans les politiques gouvernementales, vous exigez des droits différents. En ce qui concerne le climat, quel est le premier reproche qui est fait au gouvernement et comment cette assemblée va avoir un impact justement pour changer tout ça?
Mais le premier reproche adressé au gouvernement Harper, mais dans une certaine mesure aussi aux gouvernements provinciaux, nommément le gouvernement du Québec aussi, c'est clairement la vision d'un développement économique basé sur les ressources naturelles, avec un accent majeur au cours des dernières années sur la question énergétique, avec une volonté affichée, affirmée, promue par le gouvernement de vouloir développer des formes extrêmes de combustibles fossiles, ces combustibles-là qui sont les plus polluants, comme par exemple les sables bitumineux, le pétrole de schiste, le gaz de schiste, qui sont des combustibles non conventionnels qui ont un impact environnemental beaucoup plus grand que le pétrole conventionnel, parce que pour produire ces combustibles-là, sable bitumineux, pétrole de schiste, gaz de schiste, ça demande beaucoup d'énergie ou ça émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette vision économique-là, qui est complètement incompatible avec la réalité scientifique, avec la nécessité de réduire nos émissions. Au Canada, par exemple, le secteur de la production du pétrole et du gaz, en termes de gaz à effet de serre, c'est plus important, ça, le secteur pétrole et gaz, que l'ensemble des transports au Canada. Et le gouvernement veut doubler, voire tripler la production des sables bitumineux au Canada. Et évidemment, tout ça, c'est complètement incompatible avec notre nécessité de réduire nos émissions en tant que pays développé. Et donc ça, c'est le problème qui est posé de base. Et c'est clairement une volonté de faire cette transition économique-là, de sortir de ce mode de développement supra-énergétique pour s'en aller vers une économie plus verte.
Donc concrètement, ces assemblées de convergence donc la base, c'est cette critique-là, qu'est-ce qu'elles vont proposer, qu'est-ce que vous allez proposer par le biais de ces assemblées pour cette critique face aux différents gouvernements? Ça va être des actions, des manifestations?
Ce sera en plusieurs étapes. Évidemment, le forum permet de connecter des organismes qui ne travaillent pas ensemble, de mieux se connaître, de développer cette vision plus large qui permet également d'avoir plusieurs acteurs et d'avoir une synergie. Donc ça, c'est la première retombée significative, c'est le développement, entre autres, de liens. Par la suite, on a évidemment des cibles prioritaires. Et sur la question climatique, je l'ai mentionné, le développement des sables bitumineux, par exemple, est complètement incompatible avec toute réalité scientifique si on est sérieux dans lutte au changement climatique. Et ce développement-là, il est lié et pour le faire, il faut absolument des pipelines, en fait, des pipelines de sables bitumineux. Et donc, on a des projets monstrueux actuellement, des projets qui sont... Pardon?
À vous souhait.
Désolé. Donc, ça me fait éternuer ces projets-là, mais revenons. Donc, la question de projet pipeline, entre autres, Énergie S de TransCanada, qui est le plus gros projet de pipeline de sable bitumineux au monde, qui partirait de l'Alberta, qui traverserait tout le Canada, donc concernerait toutes les provinces jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et ce genre de projet-là, les gens ont dit, il faut s'attaquer prioritairement, il faut bloquer ces projets-là. Parce que s'ils se réalisent, c'est pendant 50 ans qu'on va augmenter les émissions canadiennes de l'équivalent d'ajouter 7 millions de véhicules sur les routes pour un seul projet.
Et donc, pour bloquer ces enjeux-là, vous avez justement décidé de vous réunir et vous considérez que c'est pas possible, dans le fond, si chaque organisme le fait chacun de son côté. C'est ça l'objectif de ces assemblées.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait face au lobby, un des lobbies, sinon le plus puissant au monde, entre autres le lobby pétrolier, qui est de connivence clairement avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial semble vouloir dérouler le tapis rouge, littéralement, pour l'industrie pétrolière et vouloir laisser passer ces projets-là. Donc, l'idée, c'est de se dire, chacun de notre côté, on n'y arrivera pas. Il faut trouver un moyen de monter ensemble au front, de se concerter, d'avoir des stratégies complémentaires et d'arriver ultimement à une synergie, à bloquer ces projets-là, comme on a bloqué, par exemple, le projet du Suroît au Québec, comme on a bloqué les gaz de schiste, parce que ces projets-là sont trop importants. Et s'ils se réalisent, ils vont annuler toutes les autres réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'on envisage et qu'on souhaite faire, et ce, partout au Canada. Donc, c'est la priorité. Le projet, il risque d'être déposé cet automne, même à partir de septembre, le projet TransCanada Énergie S. On a entendu parler sur la question des bilgas tout récemment. Eh bien, ce projet-là, il est devant nous, on le voit venir. Il va falloir une forte mobilisation pour arrêter ce projet-là. Il va falloir sortir dans les rues, signer des pétitions.
C'est une mobilisation que vous proposez grâce à ces assemblées, dans le fond. Et puis, l'action qui va venir, qui va en découler après, vient de ces réunions ensemble, de vous tous ensemble, dans le fond.
Oui, ces réunions-là permettent d'avoir un moment où on met en commun nos stratégies, nos réflexions, notre compréhension globale de qui fait quoi, quelque part. Et par la suite, évidemment, il y a une panoplie d'organisations. Greenpeace en fait. Il y a des stops oléoducs dans 6 régions au Québec qui ont été créés tout récemment. Il y a le regroupement Vigilance Hydrocarbures, un regroupement de citoyens. Il y a d'autres organismes comme Équitaire, comme la QLPA. Et tout le monde avance à travers ça. Mais ce qui est important, c'est que les gens joignent ce mouvement-là.
C'est toujours dans l'idée qu'il ne faut pas que ça reste symbolique et qu'il faut qu'il y ait de l'action, que les gens soient actifs et pas seulement d'un côté ou de l'autre.
Et beaucoup d'éducation. Il faut que les gens comprennent clairement l'ampleur de ce projet-là. Par exemple, Énergie S, c'est 7 millions de véhicules, tout simplement, en termes de gaz à effet de serre. C'est monstrueux. Donc, si ces projets-là vont de l'avant, les gens doivent comprendre que,
d'un point de vue climatique, on n'y arrive pas. On va revenir sur la sensibilisation que vous voulez proposer aux citoyens. Mais avant, je me tourne vers vous, Amélie Nguyen. Vous, de votre côté, comment ça s'illustre concrètement une assemblée convergente sur la démocratie?
Donc, nous, finalement, les priorités qu'on a sur lesquelles on s'est entendu ensemble lors de l'Assemblée, c'est premièrement lutter contre les politiques de droite, une droite morale dans le sens où on parle d'un retour aux traditions, un rejet des droits sexuels et reproductifs des femmes, notamment, mais une droite aussi économique. Puis là, ça fait le lien un peu avec les questions desquelles parlait Patrick. Donc, tout ce qui est traité de libre-échange qui menace aussi la démocratie ici, l'austérité aussi, comme en parlaient les intervenants antérieurs. Donc, toutes les coupures dans les services publics, ça menace la transparence au gouvernement, ça menace la qualité des services publics. Ensuite, la deuxième priorité, c'était la défense de l'espace démocratique. Puis ça, c'est un peu le fil conducteur.
Ça veut dire quoi?
En fait, défendre nos droits à la liberté d'expression, droits d'assemblée, parce que dans les dernières années, ce qu'on a vu, puis c'est un peu le fil conducteur, je dirais, entre les assemblées de convergence, dans le sens où les groupes qui se sont montrés critiques envers le gouvernement se sont fait, ont vécu une espèce de chasse aux sorcières, que ce soit en termes de financement, en termes de stigmatisation dans les médias. On parle notamment de la stratégie antiterroriste où les groupes écologistes et les groupes anticapitalistes sont considérés comme des potentielles menaces terroristes.
Donc, l'idée, c'est de redéfinir, en quelque sorte, un modèle démocratique celui qui est actuel ne vous semble pas être celui des peuples, dans le fond.
En fait, c'est... En fait, il y a à la fois les tendances au cours des dernières années qui ont menacé en termes de non-respect des institutions démocratiques, en termes de, justement, de polarisation des groupes critiques. Donc, tout le droit à la dissidence a été menacé pendant les dernières années. Donc, ça, c'est contextuel. Mais aussi, d'autre part, il y a aussi toute l'idée de repenser notre modèle démocratique, comme vous le disiez. Que ce soit au niveau de se battre pour qu'il y ait des élections proportionnelles à plus long terme. À court terme, ça veut aussi dire, ce qu'on s'est dit comme action suggérée, c'est peut-être de bâtir une plateforme des peuples qui pourrait intégrer plusieurs des suggestions de chacune des assemblées de convergence et vraiment tenter de faire en sorte que les candidats aux prochaines élections respectent les revendications qui sont suggérées dans cette plateforme.
Juste pour terminer, donc question à vous deux. Là, on a parlé d'action et de sensibilisation du côté des citoyens. Comment ça va se... Est-ce que cette réunion a permis d'avoir une campagne, dans le fond, de sensibilisation globale pour tout le monde, qu'elle ne soit pas différente? Comment vous allez vous débrouiller pour que ça aille pas seulement du côté d'une critique des politiques, mais aussi d'une demande à ce que les citoyens soient plus actifs? Comment vous demandez et vous expliquez aux gens que c'est là où on veut arriver?
La solution, elle réside clairement dans la mobilisation, selon nous. La première chose à faire, c'est que les gens doivent être informés. Vous allez, par exemple, sur le site de Greenpeace, première page, il y a une pétition sur NRJS. Vous cliquez. Maintenant, vous êtes dans la base de données, vous recevez l'information. Il y a une panoplie d'actions qui suit de ça. Il y a autant des actions juridiques que des actions directes, que de la désobéissance civile non violente, que des manifestations. Le 21 septembre, par exemple, il y a une manifestation à Montréal dans le cadre d'un mouvement mondial. Et il faut donc absolument embarquer là-dedans parce que sinon, on n'y arrivera pas.
Merci beaucoup à vous deux. On est un petit peu dépassés par le temps. Je vous remercie. Donc, Amélie Nguyen, vous êtes analyste à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Merci à vous. Et merci également à Patrick Bonin, spécialiste des questions climatiques et énergétiques québécoises et canadiennes à Greenpeace. Une heure et 41 minutes de retour à Solidarité en action avec notre dernière invitée, et pas des moindres, Mélissa Molène-Dupuis, bonjour.
Oui.
Bonjour, alors je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Idle No More et militante autochtone assez influente quand même au Canada. On va revenir avec vous plus en détail justement sur les questions environnementales concernant les sables bitumineux. C'est quand même un gros dossier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer avant toute chose sur un bilan ou en tout cas sur les impacts sociaux et environnementaux que cette industrie des sables bitumineux va avoir au Canada?
Bien, pour l'instant, je pense que les peuples autochtones, ça se détermine encore plus, de façon plus directe, qu'on est les premiers touchés par l'exploitation des sables bitumineux. Et pas seulement quand c'est sur le terrain, mais aussi par le transport à travers les pipelines, parce que ça passe à travers des territoires. Et souvent, les territoires, même si on n'est pas dessus, si un pipeline brise, ils vont être affectés. Là, présentement, on voit plusieurs cas directement dans le territoire de l'Alberta de maladies comme le cancer rare ou dans dangereux. Qui c'est les Premières Nations qui sont les premiers touchés? Les réserves d'eau qui sont affectées. On parle de merveilleux territoires boréales dans lesquels tu peux même plus boire ou manger boire l'eau ou manger la viande que tu chasses sur le territoire parce que les animaux sont eux aussi affectés. Des maladies, on parle des bébés qu'on ne peut pas exposer à l'air à l'extérieur parce
mais
que...
Mais au fond, tout le monde est affecté, on le sait.
Mais dans des détails intimes de la vie du quotidien. Et là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'avertir les autres, ceux qui sont pas à la première ligne, que le danger s'en vient, il va passer dans leur territoire et dans leur ville et dans leur village.
Mais comment vous expliquez, justement, parce qu'on vient de le dire, c'est effrayant, le bilan peut être effrayant, c'est très important, puis ça touche pas juste une minorité des gens dans le monde. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus, justement, d'investissement sur ces questions et qu'on continue à avoir cette politique sur les sables bitumineux?
Bien, présentement, je pense que la population non autochtone n'est pas encore assez affectée et on leur souhaite pas qu'elle soit affectée. Mais justement, on parlait souvent pendant la marche de la guérison qu'il y a eu lieu l'année dernière avec laquelle I Don't Know More Québec est allé avec la délégation du Québec. On parlait de racisme environnemental. C'est qu'il y a énormément de projets d'exploitation qui se font par le gouvernement ou en collaboration avec le gouvernement qui affectent les Premières Nations et que si ce n'était pas des communautés autochtones qui étaient affectées, il y aurait eu déjà une intervention, il y aurait déjà eu un arrêt ou des études. Alors que quand c'est des peuples autochtones, on est vu comme éloignés, on n'a pas souvent une voix qui est écoutée. À part depuis les dernières années, là, on se fait vraiment de plus en plus entendre. Mais c'est que ça nous affecte et que ça l'affecte pas juste nous maintenant.
Justement, là, on voit comment est-ce qu'on peut rejoindre, comment est-ce qu'on peut expliquer donc aux non-autochtones, à ceux qui ne sont pas autochtones, que ça va les toucher aussi et que c'est une cause qui peut réunir justement autochtones et non-autochtones.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très symbolique, c'est que le jour de la marche de la guérison, quand on était en Alberta pour avertir les Québécois du danger, les Québécois autochtones et non-autochtones, c'est la même journée exactement qu'il y a eu l'accident à Lac Mégantic. La même journée. C'était pas du pétrole de sable bitumineux, mais c'était du pétrole de schiste dans un train. C'était encore du transport. Et là, j'ai dit, c'est symbolique des incidents qui peuvent arriver. Ça se passera pas juste dans une forêt isolée où ce que deux ours vont être affectés. On parle d'une population qui a vu de ses jeunes, de ses enfants, des parents de certains enfants disparaître à cause d'un incident. Puis des fois, un incident, c'est un de trop. Mais là, il faut pas oublier qu'il y a des Premières Nations qui, présentement, sont en train de subir ce genre d'incident-là. Ça n'a pas besoin d'être une explosion, mais ça peut être l'empoisonnement des rivières, des lacs qui sont autour des communautés.
Et là, justement, à quel scénario, quel pire scénario on peut s'attendre à l'avenir? Donc, peut-être sur un court terme pour que ça touche, parce que j'ai l'impression que quand c'est du court terme, ça touche évidemment plus les gens, ils sont plus, ils réalisent plus. Donc, à court terme, on peut s'attendre à quel scénario? Puis, sur du plus long terme, quelles vont être les conséquences?
Eh bien, à court terme, c'est de voir les populations autochtones encore affectées, parce que c'est présentement ce qui se passe. Et présentement, les peuples autochtones ont un outil légal, un des seuls qui existe au Canada, pour arrêter l'exploitation des sables bitumineux, l'exploitation des mines à ciel ouvert, toutes les exploitations qui peuvent nuire à la population. On a vu le bassin de contention de la mine Pourley qui lui a déversé et qui affecte pas seulement nous. Alors, à court terme, on doit commencer à utiliser certains de ces outils-là pour bloquer des projets qui peuvent être nuisibles à tout le monde. Et à long terme, je pense, c'est de créer cette relation. Le Forum social des peuples, ça a été incroyable parce que beaucoup de gens sont arrivés et on commençait à se demander est-ce que ça va vraiment être un changement dans la relation ou est-ce que ça va être comme d'habitude, ils nous invitent, mais on n'est pas écoutés. Et ça a été extraordinaire. La place qui a été laissée aux Premières Nations, j'étais éblouie moi-même parce qu'on était deux co-animateurs sur la colline. Les Premières Nations étaient mises de l'avant. Beaucoup d'écoute qui a été faite aux causes des peuples autochtones et beaucoup des Premières Nations qui étaient là, c'était quand même des porte-parole pour leur propre communauté ou pour leur propre cause qui retournent, eux, en grande majorité satisfaits de ce qu'ils ont vécu. On dit, on nous a écoutés, ils nous ont laissé parler. Personne nous a enlevé la parole et tout le monde nous a écoutés avec respect. Alors, j'ai eu très peu de ventes de négatifs et beaucoup du positif pour ce qui est de l'intervention auprès des peuples autochtones pendant le forum.
Donc, vous restez optimiste sur le fait que cet enjeu de l'énergie peut devenir un des grands axes de discussion et de mobilisation aussi au Québec et au Canada?
Oui, bien, il y a une question qui est survenue pendant le forum, puis c'était une question que autochtones, anglophones, francophones, tout le monde posait, c'est quelle est la cause commune qui va nous soulever? Et moi, j'ai dit, franchement, là, la seule que je vois qui est commune, c'est l'environnement. Parce qu'on peut pas parler de droits de femmes autochtones ou de droits de femmes ou de droits d'accès
à l'éducation,
à quoi que ce soit, s'il n'y a pas d'environnement, s'il n'y a pas une sécurité environnementale pour tout le monde. Donc, je pense que ça va être notre grosse mission en tant que citoyen pour les prochaines 50 années à venir. Puis ça, je suis optimiste dans mon calcul des années. mais ça peut pas se faire s'il y a pas une coalition qui se crée. Et ça a été vraiment une belle chose de faire partie de ce mouvement-là, parce qu'on voyait qu'on y croyait tous ensemble.
Là, vous l'avez senti, donc, au Forum social des peuples, qu'il y a quelque chose de... Il y a eu beaucoup plus d'écoute que ce qui se passait avant?
Oui, je pense que... Parce que tout le monde essaie toujours d'amener quand même sa propre cause de l'avant. Et là, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'écoute. Des fois, il y a des gens qui ont... Je trouvais qu'il y avait eu un respect. Il y avait des fois aussi... On marche sur l'ego, parce que l'ego peut être fort pour protéger justement l'identité de chacun. Mais il y a eu, un respect de l'ego de l'autre aussi. Fait que je pense que c'est pour ça que la discussion a pu avoir lieu.
Et pour vous, encore une fois, je suppose, c'est pas selon vous, c'est que vous avez tous discuté, tous les intervenants, ça reste le plus grand axe qui a à retenir du Forum social des peuples, l'environnement.
Oui, parce que c'est ce qui soutient tout le reste.
Et c'est pour ça aussi que ça va être... là, vous avez pu le constater, donc entre vous, entre guillemets, ça sent... Ça
entre sent peuples avec un S.
mais justement, ça peut être aussi une lancée pour plus de sensibilisation vers tous les citoyens, encore une fois, autochtones et non-autochtones, pour montrer que tout le monde peut se réunir et toucher et être touché là-dessus. Là, les prochains défis, après avoir à vous être rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de respect et que vous étiez plus écouté, des défis à attendre pour vous?
Développer une relation plus profonde. C'est facile de tomber en amour. C'est plus difficile de créer une vraie relation. J'ai dit, on a tous nos hauts et nos bas, mais ça ne veut pas dire qu'on quitte la relation au premier... soubresaut. Alors, je pense que ça va être de continuer cette relation-là, de pas oublier puis de pas se reposer sur nos lauriers. Et j'ai comme pas l'impression que ça va être le cas parce que, avec l'équipe dans laquelle j'ai pu avoir la chance de participer dans les deux dernières années, dans la création du forum, il y a de l'énergie, puis il y a de l'énergie, puis il y a de la place pour les Premières Nations et pour les autres nations aussi. Fait que je pense que on est sur une belle voie, là. Excusez-moi l'anglicisme, mais il y a un beau team derrière les forums et derrière les actions qui se font au Québec.
Mais c'est encore une fois, à travers tous les intervenants qu'on a pu entendre dans cette émission, c'est encore une fois montrer la solidarité qui peut faire avancer les choses. Que là, vous dites que vous êtes réunis et que les Autochtones ont été plus écoutés sur ces questions-là. Ça, c'est par rapport aux organismes, mais du côté du gouvernement, du côté de la politique. Qui est...
Là, je vais être un petit peu moins fine. présentement, on s'entend que s'il y a un gouvernement qui ne représente pas du tout les valeurs qui circulent au Québec, c'est le gouvernement Harper. Mais je pense qu'on ne peut pas juste fixer sur un personnage. Parce que sinon, on va manquer le problème que c'est un problème qui est né de la colonisation. Et on a vécu des colonisations juste en entonnoir, où est-ce que quelqu'un a colonisé quelqu'un d'autre, qui a colonisé quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une problématique. On peut plus vivre dans cette relation-là. Mais quand on va s'être débarrassé de Harper ou débarrassé de justement son système, ce qui m'étonnerait qu'il y ait un revirement personnel, il y a quand même d'autres gouvernements qui vont venir après. Et ces projets-là d'extraction, c'est vu comme la manne pour le Canada et ça doit arrêter. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un travail qui se continue, malgré qu'il va y avoir...
Par rapport à qui?
Par rapport au gouvernement canadien. Ah ouais, parce que ça, c'est comme on dit, il y a personne qui veut se débarrasser de la poule aux œufs d'or. Et malheureusement, c'est pas une poule aux œufs d'or quand les frais pour défaire toutes les conséquences de l'extractivisme au Canada vont coûter 2-3 fois le prix pour réparer ce qui se fait présentement, que certaines choses seront irréparables.
Mais il faut quand même arrêter, en tout
faut
cas.
Arrêter. Faut réfléchir autrement aussi notre avenir en tant que peuple. Qui partagent l'île de la Grande Tortue.
Exactement. Et est-ce que ça partirait pas aussi d'une meilleure consultation des Autochtones du côté des gouvernements, des politiciens? Est-ce que ça, c'est une demande que vous faites?
Je pense que oui. Déjà, il faut qu'il y ait une meilleure consultation des peuples autochtones, mais il faut faire attention parce que des fois, on voit aussi une récupération du leadership autochtone parce qu'ils voient eux autres aussi. Ce que nous, on voit en tant que nation qui veut travailler ensemble, le gouvernement le voit aussi comme une manière de pouvoir faire avancer ses projets. Donc, il faut être rapide, il faut soutenir les populations parce que la raison pourquoi on va accepter des projets de même, c'est parce qu'on est pauvres, on est les plus pauvres, on est les plus à risque et je peux vous dire que quand on est les peuples le plus sous tension, c'est là où ce que le barrage peut craquer.
Merci beaucoup à vous, Mélissa Molène-Dupuis. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Idle No More Québec. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions sur ces enjeux d'environnement et des populations autochtones. Et c'est déjà terminé pour CIBL Reçoit, aujourd'hui la solidarité en action. Avant de vous quitter, on espère vous avoir éclairé sur les différents enjeux qui ont été évoqués au Forum social des peuples. Et puis, on termine avec vous, Roger Rachi, parce que certes, c'est terminé, ça s'est terminé pour aujourd'hui. Il y a des questions qui restent en suspens entre guillemets pour la fin. Il y a eu plusieurs campagnes, dont on en a évoqué certaines pendant l'émission, qui ont été développées. Qu'est-ce qu'on attend pour ces campagnes? Est-ce qu'elles vont avoir un avenir? Est-ce que ça va se terminer? Comment ça va?
Je suis convaincu qu'elles vont continuer. Je pense qu'elles vont prendre leur essor au courant des prochaines semaines. On a parlé des pipelines. Ouais. Patrick Bonnet en a parlé. Mélissa Molin-Dupuis en a parlé aussi. Les campagnes vont continuer, je pense aussi, sur les questions des coupures dans les services publics. On sait que ça mobilise énormément de gens. Les attaques sur les régimes de retraite sont devenues très dures, donc nous attendons des mobilisations sur ces questions-là. Sur les questions de démocratie, nous avons vu les critiques, maintes et maintes critiques, qui ont fusé envers toute l'action du gouvernement Harper. Donc cela va continuer. Ce qui nous intéresse à nous, c'est d'élargir le forum, de faire en sorte que le forum aille chercher, par exemple, les gens de l'ouest du pays qui ne pouvaient pas tous se déplacer et venir vers l'est, vers Ottawa, et peut-être aussi développer par les moyens technologiques, aller chercher les communautés les plus éloignées dans le Grand Nord, qui, elles aussi, ne pouvaient pas se déplacer.
Donc, c'est les questions à venir. C'est ce qu'on cherche pour avoir un avenir du Forum. On vous souhaite, en tout cas, que les campagnes continuent et que toutes les nombreuses luttes dont on a parlé continuent, elles aussi, également. C'est ce qui conclut notre émission. C'était donc la première de la saison 2014 et on se retrouve en octobre au premier mercredi du mois pour la prochaine émission de Solidarité en action avec Alternative. D'ici là, je vous invite à visiter notre page sur le site internet de CIBL, cibl1015.com. Et si ces enjeux vous intéressent, tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site pour réécouter l'émission. Vous pouvez également nous écrire par courriel à Solidarité en Action, tout attaché à commercial cibl1015.com. À la technique aujourd'hui, c'était Carlo Bellomo. Merci à toi, Carlo. Et puis je remercie également tous nos invités. Je vous rappelle que la Solidarité en Action est réalisée par CIBL en collaboration avec Alternative et grâce également à la collaboration du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec. C'était Émilie Lamine, merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.
Le samedi 6 septembre, Laval inaugure sa maison du jazz dans un décor exceptionnel. Une terrasse, deux étages et la classe d'affaires, section exclusive aux membres de la maison du jazz, vous sont offerts. Les sommités du jazz se succéderont 6 soirs par semaine. La maison du jazz de Laval ouvrira ses portes le samedi 6 septembre. Avec le Paradise Band, Billy Georgette et Michelle Sweeney, vivez l'expérience La maison du jazz, 1639 Boulevard de l'Avenir à Laval.
Etc. L'opium du pop, tous les mercredis à 20h. À l'antenne de CIBL.
Qu'ont en commun votre grand-mère et un lutteur? Ils sont simplement humains. Les mercredis, nos panélistes aborderont l'humanité à travers des témoignages intimes. Nos psychologues et sociologues, ainsi que d'autres professionnels, nous aideront à mieux nous comprendre. Simplement humain, mercredi 19h, sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Simplement humain, l'émission où l'on décortique l'humain pour mieux s'en rapprocher.
Attention, attention, avis à tous nos auditeurs. Nous vous prions de ne pas manquer du lundi au vendredi l'émission Les Oranges Pressées, animée par Julien Poirier-Malot, accompagné de ses nombreux collaborateurs. Pour connaître quotidiennement l'essentiel de l'actualité montréalaise, présentez-vous à la porte du 101.5 FM CIBL Montréal de 6h à 9h. Je répète, de 6h à 9h. Merci de votre collaboration et bonne fin de journée.
Mes chers amis, ici Ronnie Lee, votre oiseau de nuit, qui vous divertit tous les vendredis sur le coup de minuit. Spécialement pour toi, Montréal, merveilleuse métropole, j'ai une proposition à te faire. Une offre extraordinaire, Montréal. Je t'offre un voyage musical tropical, toutes dépenses payées à destination de... Ton week-end Montréal, tu décompresses, tu divertis gratuitement au son de la Caraïbe, les vendredis soirs à minuit à CIBL 101.5 Montréal. Wow!
Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.